Parole d'écriture, émission animée par Michel Bernard. Chers auditeurs, bonsoir. Ce thème que nous allons aborder maintenant nous concerne tous, soit directement, soit par nos enfants. De quoi s'agit-il ? Être universitaire aujourd'hui ? J'aurais pu vous proposer une réflexion sur l'université que nous aurons inévitablement dans la seconde partie, mais j'ai tenu d'abord à inviter deux témoins très différents. Marc, qui est maître de conférence à l'université d'Aix-en-Provence, je le présenterai après l'avoir écouté, et puis Agnès, qui est docteur en philosophie, chargée de cours, donc inévitablement vacataire à l'université de Nice, en l'occurrence, deux témoignages très différents, et puis nous engagerons ce débat. Être universitaire aujourd'hui, c'est une manière de comprendre comment fonctionne l'université, c'est aussi poser la question, qu'est-ce que c'est qu'un diplôme aujourd'hui, et qu'est-ce que c'est que l'étudiant ? Nous vous emmenons dans les coulisses de l'université, avec deux témoignages, être universitaire aujourd'hui. Écoutons d'abord Marc d'Aix-en-Provence. Monsieur Calvini Lefebvre, merci de nous recevoir dans votre bureau de chercheur à la faculté des lettres, des arts, des langues et des sciences humaines d'Aix-en-Provence. C'est bien ça,
vous ? Merci à vous, oui, c'est ça.
Alors, une première question, pourquoi Calvini Lefebvre ?
Pourquoi Calvini Lefebvre ? Parce que je fais profession de féminisme et mon épouse s'appelle Calvini, moi je m'appelle Lefebvre. Lorsque nous avons décidé de nous marier, elle m'a demandé si moi je prendrais son nom et en abandonnant le mien. Et je lui ai dit qu'évidemment non. Elle m'a dit bah moi non plus. Donc on a décidé de prendre les deux.
Et alors quel a été votre parcours et quel choix avez-vous eu éventuellement, ou tout simplement le choix du monde universitaire s'est présenté rapidement ?
Ah, alors ça, le choix du monde universitaire s'est présenté à 19 ans, 20 ans, quand je me suis dit bon, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie ? J'en savais rien. Tout ce que je savais, c'est que j'aimais lire des livres, notamment des livres qui prétendait expliquer le monde qui m'entourait. Donc moi, je voulais continuer à lire ce genre d'ouvrages, des ouvrages de philosophie, de sociologie, d'économie politique, etc. Et je regardais autour de moi, et les adultes que je connaissais, qui avaient des carrières très intéressantes, notamment mon père, qui était un cadre très avancé dans sa carrière, des gens très brillants, mais qui ne lisaient plus rien, à part des rapports, pour leur boulot. Et je me suis dit, bon, ça... C'est pas ce que j'ai envie de faire. Donc, si je veux continuer à lire des bouquins, quel est le métier dans lequel on peut le faire ? Et ça, le monde universitaire paraissait le choix d'évidence. L'autre motivation, c'était que je voulais en fait enseigner. C'est-à-dire, bon, pour être honnête, en fait, j'avais très très envie d'être sur scène. J'avais envie d'être sur scène et de partager le savoir, mais aussi de faire un peu le clown. Enfin, c'était aussi l'objectif. En fait, j'étais inspiré par d'autres enseignants. Je voyais mes profs, il y en avait certains que je trouvais extraordinaires. Et voilà, ça, ce serait amusant d'avoir ce rôle-là. Puis j'en voyais d'autres qui étaient tellement atterrants. Je me disais, mais je pourrais mieux faire le boulot qu'eux. Donc voilà, je voyais l'intérêt de cette profession. Ce que j'avais pas tout de suite saisi, c'est qu'il fallait faire une thèse pour en arriver là. Et ça, ça a été plus sportif. Mais dans un premier temps, le choix, c'était je veux pouvoir continuer à lire des bouquins et de m'intéresser à qu'est-ce que le monde et comment le comprendre et ma place dans le monde, etc. Et enseigner.
En fait, si je résume, vous êtes parti du livre pour vous mettre à l'ouvrage afin d'y envisager l'œuvre de votre vie.
Voilà, c'est ça. Oui, c'est une belle manière de le dire, oui, tout à fait.
Et alors, votre domaine privilégié, on a compris, de la recherche, c'était le féminisme.
Oui, c'est ça. L'histoire du féminisme. Alors, l'histoire, en fait, mon point de départ, c'est l'histoire des idées politiques. C'est ma grande passion, c'est ce qui me passionne quand je fais mes études à l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence. Donc là, c'est vraiment le coup de foudre, l'histoire, le développement des idées, etc. Et ensuite, ça va s'affiner avec une année Erasmus absolument capitale. Donc Erasmus, c'est vraiment, j'espère que ce système va se maintenir, parce que je pense que c'est absolument génial, à l'université de Durham, au nord de l'Angleterre. Où là, mon goût pour cette discipline ne fait que s'accentuer. Et ensuite, je vais faire un master en théorie politique à Londres, puis ma thèse en histoire des idées. Donc l'histoire des idées, c'est le cœur de la question pour moi. Et ensuite, pourquoi le féminisme ? Parce que justement, une des raisons pour lesquelles je me lance dans l'étude des idées, politiques en général, c'est parce que j'ai envie d'arriver à une... un point de vue personnel, vraiment mien, sur justement le monde politique. Et alors, quand j'arrive en Angleterre là, et que j'ai enfin un cours qui s'appelle Feminist Political Theory, théorie politique féministe, j'ai le coup de foudre là pour le coup, parce que j'avais bien étudié plein de choses en France, mais jamais le féminisme. Et là, je découvre une pensée critique qui est extrêmement riche et qui me permet de faire sens de choses que je ne comprenais pas jusque-là. Notamment, pourquoi n'y a-t-il pas plus de femmes à l'Assemblée nationale en France ? Et je comprends qu'avec la théorie féministe, j'ai des outils pour comprendre où sont les blocages conceptuels. Pas simplement matériels, logistiques, mais conceptuels. Il y a une question à poser à l'universalisme à la française, qui finalement n'est pas un universel neutre, mais un universel masculin. Donc ça m'aide à mieux comprendre ces blocages-là. Et en plus, on est en pleine guerre d'Irak. Et donc, je finis par m'intéresser à la pensée féministe sur les questions de guerre et de paix, en historien, et donc je reviens au 19e siècle. Voilà, c'est comme ça que mon
chemin. Et là, vous mettez à naviguer comme vous l'entendez. Enfin, je veux dire, vous êtes vous-même auteur de votre parcours.
Voilà, c'est ça, à partir de là, oui.
Et vous continuez de naviguer. Si demain il se passe autre chose dans le monde, vous recentrez votre travail, vos réflexions sur autre chose. Mais toujours avec le cadre du féminisme.
Voilà, c'est ça. La grille de lecture, ça va être la théorie féministe. Et donc, comme une des choses qui en ressort, ou un des mouvements qui en ressort, c'est ce qu'on appelle les gender studies ou études genre en français, eh bien, à l'heure actuelle, je me retrouve à faire beaucoup de cours qui tournent autour des études genre en France. Enfin, donc j'ai un cours ici qui s'appelle, à la fac de lettres, qui s'appelle Gender and Work. Donc on s'intéresse au plafond de verre, à la question du plafond de verre. Et j'en ai un autre à Sciences Po qui s'appelle Gender and Politics, où là je parle de comment les études de genre nous permettent de revoir ou de repenser justement la politique et le politique.
Alors justement, vos recherches, vous les conduisez comme vous l'entendez. Mm-hmm. Vos enseignements, vous êtes bien obligés éventuellement d'être conduit à prendre tel thème ou tel autre, mais vous pouvez aussi appliquer vos thèmes de recherche en enseignement. Comment se fait l'alliance entre tout ça ?
Alors, pour les enseignements, tout dépend au niveau auquel on se situe. Plus on est en bas de l'échelle, plus on est en L1, enfin première année de licence, deuxième année de licence, on va être amené à faire des cours, en tout cas à l'heure actuelle, qui sont des cours introductifs. Donc, par exemple, le cours de première année de civilisation britannique, on va de Henri VIII à nos jours. Il est évident que je ne suis pas spécialiste de l'histoire de... Enfin, je ne suis pas chercheur en histoire du XVIe siècle britannique. Mais ce sont des cours très enrichissants pour moi, parce que justement, ça me permet de mieux connaître cette longue trame historique. Et rien ne m'empêche de glisser les choses qui m'intéressent plus particulièrement dans ces cours-là.
Autrement dit, il n'y a pas forcément opposition radicale entre l'enseignement et la recherche.
Mais il n'y en a surtout pas. Je dirais même au contraire que une des choses qu'il faut absolument arriver à faire le plus possible, c'est de toujours faire passer sa recherche dans ses enseignements et, j'ajouterais, sans la cacher, la présenter comme telle. Moi, j'essaie toujours de dire à mes étudiants et à mes étudiantes d'où je viens et d'où je parle. En leur disant très clairement, attention, on est entre adultes. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec ce que je vais vous dire. Vous avez le droit de trouver de contester mes interprétations et mes propositions. Et quand je vous parle, quand je leur parle du genre, je le fais pas en me cachant. J'essaie de dire très clairement, voilà d'où je parle et voilà pourquoi je vois les choses de cette manière et pourquoi je pense que c'est un angle d'analyse intéressant. Et j'essaie de les inviter à ne pas prendre tout ce que je dis pour argent comptant.
Alors, comme universitaire, vous avez au moins trois domaines, l'administration, l'enseignement et la recherche. Comment faites-vous ? Parce que c'est pas simple de piloter ces trois dimensions à la fois. Je crois que les étudiants et même les parents ne se rendent pas compte des charges administratives, que l'enseignement n'est pas la recherche, que la recherche demande aussi beaucoup de temps. Comment arrivez-vous à gérer le tout ?
Je pense que comme tout le monde, il y a des jours où je coule et il y en a d'autres où je remonte à la surface. Ce qui est difficile, c'est d'apprendre à dire non. Apprendre à dire non, apprendre à dire bien que ce projet-là me paraisse particulièrement passionnant, je ne peux pas. Et accepter qu'on ne va pas pouvoir se lancer dans tous les projets qui nous animent ou qui nous font envie. Et trouver aussi le moyen de s'entourer de collègues qui travaillent comme vous, ont les mêmes envies, les mêmes espoirs, et qu'avec eux, on arrive à créer des liens de solidarité qui permettent justement de, d'une part, de partager nos peines, parce que c'est toujours utile d'avoir des gens autour de vous avec qui discuter, et qui aussi peuvent vous donner des conseils, qui sont passés par là avant vous. Moi, j'ai des collègues qui ont 3-4 ans de plus que moi, et bien ils ont 3-4 ans de bobos supplémentaires, et ils peuvent me dire, bah voilà, ça fait mal, donc fais très attention, faisant un peu moins de ce côté-là, faisant un peu plus de ce côté-là. Il faut aussi espérer compter sur la solidarité plus générale entre collègues. La partie administrative de la fonction, effectivement, est méconnue du grand public. Elle est effectivement très chronophage, en partie parce que les universitaires ne sont pas des managers, mais on leur demande d'être des managers. Donc ça, c'est quand même un peu compliqué. On n'a pas de formation, et pourtant, nous manageons entre nous. Ce qui, forcément, quand certains d'entre nous n'ont pas forcément les compétences sociales, managériales, et des fois, ça frotte, des fois, ça pique, parce que les individus ne s'entendent pas, n'arrivent pas à se dire les choses d'une manière qui fonctionne, et donc on arrive à des clashs personnels qui ne devraient pas exister. On devrait pouvoir traiter le problème sans que ça devienne personnel. Mais parfois, ça le devient, et ça, c'est un peu malheureux. Donc il faut apprendre à éviter ça. Mais quand on peut sur la solidarité de l'ensemble du département. Donc je vous disais que le mien, on est 50. On est un gros département, c'est énorme. Et donc, comme on est 50, on peut aussi passer les responsabilités au bout de 3-4 ans. C'est à quelqu'un d'autre de prendre la charge. Ça vous décharge, vous, de ces responsabilités administratives. Et on peut repasser à un peu plus d'investissement sur sa recherche personnelle ou sur ses cours.
Et comment vous percevez les étudiants ? Il y a 4 ans, 5 ans, vous êtes en poste maintenant ?
Voilà, 5 ans.
5 ans. Comment vous percevez les étudiants dans une fac ? Parce que, être étudiant dans une grande école, être étudiant à Sciences Po, être étudiant dans un IUT ou dans une classe préparatoire n'a rien à voir avec la fac. Selon vous, comment vous voyez ce monde étudiant qui est calme, qui me semble redoutablement soumis, finalement ?
Alors, oui, ils sont effectivement assez dociles. Et bon, ça, c'est une bonne nouvelle pour l'institution, parce que ça veut dire qu'on peut faire les choses... On peut faire des choses parfois pas très efficaces. Et bon, ils râlent un peu, mais ça passe. Cela dit, moi, ce que je vois, ce sont... La difficulté de l'enseignement à la fac, par rapport pour enseigner, parce que j'enseigne aussi à Sciences Po, la différence que je vois n'est pas tant une différence de niveau. On va dire, ouais, mais Sciences Po, ils passent un concours, alors ils sont très forts. C'est pas tout à fait vrai. Ils sont très forts. Mais j'en ai des très forts ici aussi. J'ai des étudiants exceptionnels à la fac. Simplement, la différence, c'est qu'à la fac, j'ai une hétérogénéité qui est incroyable. Enfin, je vais, en gros, de l'étudiant absolument brillant à l'étudiante ou l'étudiant, enfin, l'étudiante brillante, à l'étudiant ou l'étudiante qui n'a pas sa place dans cette formation. Mais pas parce qu'on n'a pas envie que cette personne suive une formation d'anglais, parce qu'elle n'est pas armée pour le faire. Elle n'a pas eu, au niveau précédent, suffisamment de cours d'anglais. Puisque la fac est ouverte à toute personne qui a un baccalauréat, beaucoup d'étudiantes et d'étudiants choisissent l'anglais par défaut. C'est-à-dire, bon, j'ai fait un bac pro, j'avais peu d'anglais par semaine, j'ai pas eu l'IUT ou le CAP ou le truc que je voulais, donc pour l'instant je vais m'inscrire en anglais. Après tout, l'anglais ça servira toujours, et les pauvres, là ils vont au massacre parce qu'ils ont pas les armes. Alors, je tiens à préciser que ce n'est pas parce qu'on a un bac pro qu'on ne peut pas réussir en licence d'anglais. Simplement, il faudrait avoir de l'anglais qui vienne d'ailleurs que le bac pro. Peut-être quelqu'un dont les parents sont anglophones ou qui a fait un séjour linguistique, bon là ils auront peut-être les armes pour réussir, mais en volume horaire pur, avec dans ces bacs-là, on n'a pas assez d'anglais. Ça peut être vrai pour d'autres bacs qui ne sont pas des bacs pro, mais voilà, ça pose ce problème-là. Donc l'hétérogénéité crée ensuite le sentiment que on a beaucoup d'étudiants qui sont faibles, mais c'est pas qu'ils sont faibles, c'est qu'ils sont mal orientés. C'est ça la difficulté. Donc après, pour eux, c'est là que la docilité est plus problématique. C'est pas tant la docilité au sens collectif, où il faudrait qu'ils se battent tous collectivement un peu plus pour secouer l'institution parce qu'elle est défaillante sur tel ou tel point. Je dirais que la docilité, elle est plutôt individuelle dans ce que vous disiez tout à l'heure, se prendre sa vie en main. Un sentiment que, si ça marche pas, je vais continuer comme ça à vivoter en L1 pendant un an, deux ans, trois ans. Et la bonne nouvelle, c'est nous, ce que nous faisons dans notre département, mais c'est vrai ailleurs, nous avons des enseignants référents. Donc je suis, moi, enseignant référent pour une centaine d'étudiants, d'étudiantes, qui viennent me voir et on fait le point.
Donc quelles orientations.
Voilà. Alors, en même temps, nous ne sommes pas conseillers en orientation.
J'entends.
Voilà. Mais on essaie de les aider. Voilà.
On retrouve l'esprit de prototypique.
Oui, c'est ça.
Hein, d'une première année où les gens se cherchent, et à défaut d'avoir eu l'orientation suffisante avant, c'est dans cet espace qu'ils vont naviguer, se repositionner, etc.
Ouais, tout à fait.
Donc, à la limite, c'est presque encore une quatrième fonction. M'enseigner, faire de la recherche, l'administration, être enseignant efférent. C'est-à-dire prendre du temps pour écouter, orienter, enfin, c'est énorme.
C'est énorme, oui. En même temps, ça, pour moi, le côté... Alors, enseignant référent, pour le coup, c'est une des fonctions les plus agréables, les plus valorisantes, enfin, où je me sens le plus utile, parce qu'on a des conversations qui débouchent. C'est-à-dire que j'avais une étudiante il y a quelques années, donc première réunion à la rentrée, on a une réunion, on remplit la fiche pédagogique, c'est-à-dire le contrat en fait, qui dit voilà les examens que je vais passer, on a une brève discussion sur pourquoi avez-vous choisi cette licence d'anglais. Oh, je sais pas, je m'étais dit que pourquoi pas. Très bien. Deuxième réunion après les résultats d'examen du semestre 1, cette étudiante avait des très mauvais résultats. Alors je lui dis bon, c'est pas folichon, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Elle me dit bah je sais pas quoi faire. Alors, je lui dis non, mais qu'est-ce que vous aviez envie de faire? Vous avez envie de travailler dans quel métier plus tard? Quel genre de métier? Elle dit je voudrais travailler dans le cinéma, pas en tant qu'actrice, mais dans tout ce qui est préparation de donc maquillage, etc. Et je lui dis mais vous êtes renseignée sur ces métiers? Ah non. Donc à la suite de notre conversation, elle est allée se renseigner. Qu'est-ce qui existe comme métier? Donc, qu'est-ce qui existe comme formation? Troisième réunion, au mois de mai, je crois, en préparation des examens, enfin, pour parler un peu des examens qui vont arriver. Je lui demande, alors, vous en êtes où? Et elle me dit, ah ben, j'ai passé un concours, l'année prochaine, je serai dans une école à Paris qui prépare au métier du cinéma.
Alors concrètement, voilà un cas totalement réussi.
Voilà.
Mais quel est le pourcentage d'élèves qui viennent vous voir d'abord?
Ah, il est assez élevé quand même.
Il est assez élevé.
Parce qu'on leur dit que s'ils viennent pas, ça va chauffer. Mais bon, on leur dit, ce sont des réunions obligatoires. Et comme ils ont, franchement, les étudiants de première année, pour l'immense majorité d'entre eux, ont envie de bien faire. Simplement, ils ne sont pas armés pour bien faire, puisque jusqu'à présent, ils étaient dans un système très encadré, qui est le lycée, et ça, c'est très bien. Mmh. Et puis, tout d'un coup, on leur dit « Ah ben, maintenant, débrouillez-vous !» Ce qui est quand même assez injuste. Ils se retrouvent à 18 ans, souvent, ils ne sont plus dans la ville dans laquelle ils ont fait leur lycée. Ils se retrouvent là avec plein d'autres étudiants de leur âge qu'ils ne connaissent pas. C'est forcément, et à juste titre, l'occasion de faire plein de rencontres. Donc, on comprend qu'au semestre 1, ce soit un petit peu rock'n'roll, parce que ben, on va à des soirées, on rencontre des gens, on fait des choses, et puis là, tout d'un coup, on est libre. On n'a plus que 15 heures de cours. Et on est habitué à avoir un système, on a beaucoup d'heures de cours tous les jours, 8 heures par jour, avec des devoirs nombreux. Alors que là, pas forcément. L'enseignant va peut-être, ou l'enseignante va peut-être dire, ben voilà une plaquette de TD, travaillez chez vous, et puis vous venez au TD, mais il n'y a pas, on ne vérifie pas le travail. Il y a une grande liberté. Et cette liberté est très dure à assumer et à gérer. Voilà, donc ils ont envie, enfin je pense qu'ils souhaitent être encadrés.
Très bien.
Ça se passe très
moi,
bien.
Je pense que de toutes les structures d'enseignement supérieur, la fac, l'université, est celle qui donne la plus grande liberté à l'élève. Les parents sont plus ou moins présents, et souvent moins que plus, considérant que l'âge de la majorité est arrivé, donc on laisse faire. Et j'ai vu beaucoup de parents, tout d'un coup, découvrir leur enfant un an ou deux ans après la fac, qui s'effondrait complètement.
Ah oui, oui, oui.
Complètement, et surpris. Bah oui, non, je pense que c'est inévitable. Parce que l'élève de faculté doit prendre beaucoup de responsabilités, beaucoup d'autonomie. Et s'il n'est pas un minimum accompagné, il va pas marcher. Ça va marcher.
Voilà, nous allons retrouver Marc au début de la deuxième partie. Marc est maître de conférence, jeune, moins de 35 ans. On peut imaginer qu'il sera prof à 50 ans. J'ai voulu choisir ce profil qui honore l'universitaire, qui honore l'université. Mais nous verrons tout à l'heure que ce n'est pas le cas pour tous et pour toute l'université. Vous retrouverez Marc par ailleurs dans une série Chemin-scopie pendant plus d'une heure. Et vous aurez à ce moment-là son site et vous pourrez continuer avec lui. Le titre, c'est « Marc, l'universitaire en quête de renouveau », ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Dans un instant, on se retrouve. Être universitaire aujourd'hui, continuons. D'abord quelques minutes avec Marc avant de le quitter, et puis nous passerons après à Agnès.
Alors, j'allais dire, j'ai un petit questionnaire que je pose toujours à ceux que je reçois, qui n'est pas le questionnaire de Pivot, qui n'est pas celui de Proust, mais qui est intéressant. Mmh. Trois mots qui rendent présent votre enfance.
Alors, États-Unis, soleil, et j'ai envie de dire Hawaï.
D'accord. Trois personnes vivantes que vous admirez le plus.
Rodney Barker, qui est professeur émérite aujourd'hui à Londres, professeur de théorie politique. Anne Phillips, qui est une professeure de théorie féministe. Je dirais un homme que j'admire beaucoup, Quentin Skinner, qui est un historien des idées politiques britanniques.
D'accord. À ce jour, qu'est-ce que vous avez le plus négligé de vous ?
Mon corps.
Trois rêves pour la suite de votre voyage terrestre ?
Trois rêves ? Publier un bouquin. Publier ce bouquin, qu'on en termine. Voyager autour du monde avec mon épouse. Que mes enfants soient heureux.
Selon vous, qu'est-ce que vous laisserez en friche le jour où vous serez parti ?
Qu'est-ce que je laisserai en friche ?
En vous.
Oh, certainement un bouquin. Certainement un bouquin qui sera toujours pas fini.
Vous avez tous les pouvoirs. Quels sont les trois actes majeurs que vous posez ?
Alors déjà, on va faire en sorte qu'il y ait un système permettant l'égalité professionnelle homme-femme. J'ai envie de dire, bon c'est pas terrible de dire ça, mais j'ai envie de dire le racisme et la xénophobie disparaissent d'un coup, comme ça. Bon ça c'est du pouvoir magique plutôt que du pouvoir politique. Et j'introduis la... Ah oui, ce qui serait pas mal, ce serait un salaire universel pour les jeunes, qui remplacerait la bourse. C'est-à-dire, je voudrais décoller la bourse de l'obligation à suivre des études.
Votre devise ?
Ça, c'est une dure question.
Bien sûr. Pour un maître de conférence.
Ma devise ? Poursuis ton rêve.
Selon vous, trois mots pour parler de l'autre ?
Je dirais insaisissable, différent, émouvant.
Trois mots pour parler du monde actuel.
Oh, déprimant, inquiétant, chaud.
Trois valeurs qui font de votre vie.
L'égalité, mais au sens très large. La bienveillance, le savoir.
Le sens de votre vie en un mot, c'est quoi ?
Eh bien, si je le savais, disons que le sens que j'essaie de lui donner, c'est la transmission d'un espoir.
Quelle question que vous auriez aimé que je vous pose en plus ?
Quelle question que j'aurais aimé que vous me posiez en plus ? Ben, je ne sais pas, non, je n'en vois pas.
Elles étaient complètes. Alors merci beaucoup pour cet entretien.
Merci.
Et je retiens bien qu'à partir d'ouvrages, vous vous mettez à l'ouvrage pour faire votre œuvre.
Oui, absolument.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci à Marc, que vous allez retrouver sur le site pour cette émission. Et en même temps, tout l'entretien sous couvert de chemascopie, Marc, l'universitaire, en quête de renouveau. Agnès, bonsoir. Merci d'être présent dans le studio.
Merci.
Alors, j'ai envie de vous poser deux questions. Vous, qui êtes docteur en philosophie, qui aurait pu être universitaire, vous avez fait un autre choix. Vous êtes chargé de cours. Vous êtes donc inévitablement vacataire. Vous avez un regard tout à fait original et tout à fait passionnant, à la fois sur l'université, sur les étudiants, sur l'enseignement. Alors, je vous laisse la parole. Comment vous réagissez à la fois à ce que vous avez entendu et ce que vous vivez dans votre université ?
Mais écoutez, ce qui m'a interpellée dans ce que Marc, c'est ça, nous a fait partager, j'ai beaucoup aimé la manière assez libre dont il évoquait son parcours. Hein. Bon, moi, j'ai personnellement un parcours plus atypique. J'ai fait une thèse alors que je travaillais déjà en formation continue, avec donc dans un contexte tout autre que le contexte universitaire. J'ai fait une thèse qui elle-même est très très atypique puisque j'ai travaillé sur deux femmes dont j'ai fait une lecture philosophique, Landra Salomé et Catherine Pozzi, mais celles-ci ne sont pas à proprement parler des philosophes du Sérail. Et j'ai travaillé avec une universitaire, Françoise Bonnardel, qui elle-même est spécialiste de l'alchimie. Donc tout ça fait que, bon, j'ai, voilà, je n'ai pas projeté une carrière universitaire. Les choses se sont faites un peu comme ça, voilà, de manière assez aléatoire. Et je n'ai aucun regret. Hein, je n'ai aucun regret. Voilà, je pense que j'aurais pu faire les choses autrement, mais la vie s'est produite, voilà. Et puis il y a eu la maternité qui s'en est mêlée aussi. Enfin, moi. Alors, donc c'est vrai. Du coup, je suis sur un autre positionnement. C'est intéressant. Il a dit énormément de choses qui évidemment me parlent, hein, parce que à l'université, ce que j'observe aussi, donc à Nice, hein, lui est à Aix-en-Provence, moi je suis à Nice. C'est effectivement qu'il y a, me semble-t-il, hein, ce qui est le plus frappant, c'est quand même le désarroi des étudiants. Enfin bon, il s'en fait l'écho également. Et à ce titre, j'aime bien ce qu'il dit dans le questionnaire à propos d'un éventuel salaire étudiant qui ne serait pas conditionné par les études. Et donc, qui donnerait aux étudiants, alors là, de manière peut-être un peu idéale, mais bon, pourquoi pas, une grande liberté sur quelques années, voilà, de se construire. Je crois que ce serait assez formidable. On en est très très loin, évidemment, parce que ce qui me frappe, moi, je suis revenue à l'université, donc 10 ans après avoir soutenu ma thèse, j'avais travaillé, donc comme je le disais tout à l'heure, dans un tout autre contexte professionnel. Et ce qui m'a vraiment vraiment frappée, et ce que je perçois aussi à travers mes propres enfants, puisque ma fille aînée fait des études, et ce qui me frappe, c'est l'obsession actuellement qu'on a en tant que parents d'ailleurs. Alors c'est un très très vilain mot, mais de l'employabilité, hein, le parcours professionnel prime sur tout le reste, et on a donc face à soi des étudiants qui pour beaucoup sont obsédés par ça, ont très très peur de l'avenir, ils sont déjà en train de penser leur CV. Alors quelle place reste-t-il pour le savoir en lui-même? Et moi, le souvenir que j'ai de mes propres années d'études, c'est d'abord et avant tout celle d'une énorme liberté, d'une liberté totale et d'un goût pour le savoir qui était sans limite. Enfin, voilà, moi j'ai eu la chance aussi bien à Grenoble 2 qu'à Paris 1 ensuite, d'avoir quand même de grands maîtres, hein, de vrais maîtres, quoi, des personnalités qui incarnaient le savoir, quoi, qui avaient une, alors le terme peut-être un peu galvaudé, une aura, enfin, voilà, ils incarnaient. Il y a cette question de l'incarnation. D'ailleurs, Marc il fait référence quand il parle de la théâtralité, etc. Un savoir incarné. Je crois que ça, il me semble aussi, ça fait défaut, hein, malheureusement, maintenant à l'université, et puis surtout. Les étudiants sont tellement obsédés par leur parcours. D'ailleurs, on parle de parcours maintenant, etc. Bon, que je crains un petit peu que ça disparaisse. C'est un petit peu, donc, sur un versant plus pessimiste, c'est vraiment ma crainte.
Finalement, Agnès, vous posez la question des humanités. Qu'est-ce qui reste comme humanité pour un étudiant? Et quelle est la valeur d'une formation professionnelle, entre guillemets, à l'université?
Oui, alors la question se pose, à mon avis, de manière encore plus aiguë pour, évoquer les humanités. Alors c'est vraiment, je crois que le terme paraît totalement anachronique maintenant, malheureusement. On a l'impression que ça sonne comme une espèce d'archaïsme. Le terme a presque disparu. Et on a des départements, moi j'interviens pour le département d'ethnologie et anthropologie, d'une part, et par ailleurs pour le département des sciences de la communication. Alors les sciences de la communication, on a des étudiants qui ont l'impression d'être dans du professionnalisant, mais en revanche, pour mes étudiants ethnologues, évidemment, on est sur un tout autre terrain. Bon, bah, on a le sentiment d'une survivance comme ça de ces départements qui sont un petit peu en déshérence, hein, qui sont en partie désertés, qui ne se portent pas bien. Et qui sont porteurs d'une tradition, je pense, d'une véritable identité, mais qui est une identité qui est malheureusement, dont on fait sans cesse, hein, me semble-t-il, actuellement le procès. Et c'est vrai que le procès des sciences sociales, il se fait, y compris sur la scène publique. Je pense à un ouvrage que vient de publier le sociologue Bernard Lahire, là, qui est professeur à l'École normale supérieure, Il répond dans cet ouvrage à une polémique, alors, dont il dit qu'elle date de plus de 15 ans d'ailleurs, autour de cette culture de l'excuse qui serait véhiculée par les sciences humaines et sociales. Voilà, parce qu'elle, je sais pas, on les soupçonne d'une forme de sympathie à l'égard de leur objet d'étude, et elles excuseraient les plus pauvres, les plus précaires, etc., dans leur dévoiement. Enfin, bon, tout cela me paraît absolument ahurissant, mais enfin, surtout, c'est un mauvais procès, un procès extrêmement médiatique, bien sûr, très politique, très idéologique. Mais ce qui me paraît symptomatique, c'est que ça correspond à un délitement, un délaissement profond des sciences humaines et sociales à l'université.
Il faut rappeler au passage que le Japon vient de fermer 21 facultés de sciences sociales. Ouais. Et en fermant des facultés de sciences sociales, on s'écarte des humanités. Oui, on les fait disparaître. En plus de tout cela, Agnès, vous assistez à l'émergence d'une certaine logique bureaucratique, managériale, je ne sais comment dire, et d'une logique financière qui devient envahissante.
Oui, oui. Bon, donc là, on a effectivement, on a une conversion de l'université à une forme de libéralisation, bien sûr. Je crois, mais enfin, bon, alors historiquement, nous avons lu l'un et l'autre un ouvrage qu'on pourrait peut-être citer là sur la destruction de l'université française. C'est un ouvrage qui est paru à l'automne dernier, hein, d'un historien qui s'appelle Christophe Granger. Et c'est vrai qu'il a le mérite, hein, de faire un peu l'historique de ce progressif délitement, cette crise de l'université qui, à mon avis, a atteint une sorte d'acmé, hein, là, très nettement. Donc la loi LRU, hein, la fameuse loi sur l'autonomie des universités de 2007, elle vient renforcer un état de fait. Mais bon, la crise de l'université est antérieure à cette loi. Et simplement, la loi LRU, elle vient institutionnaliser un mouvement plus général, hein, effectivement, de libéralisation du système, de, je crois que le terme n'est pas assez fort, hein, de marchandisation du savoir. On est dans un rapport comme ça, où finalement l'obsession de l'université actuellement, c'est celle de l'utilité sociale, hein, des savoirs qu'elle transmet. Elle devient obsédée par ça. Enfin, j'ai parfois l'impression, à travers l'élaboration de plaquettes, de brochures, etc., etc., donc on essaye déjà de se positionner sur un marché de l'éducation, en fait, hein, c'est ça, plus global, et puis de mettre en avant le fait que l'université elle aussi sache former des opérateurs, quoi, de la main d'œuvre qualifiée, pour dire les choses un peu crûment, je crois que c'est vraiment ça, avec une visée exclusivement techniciste, hein, du savoir. Donc évidemment, les humanités n'ont plus leur place. Enfin, mais je pense qu'en plus c'est une erreur profonde, parce que je crois que les humanités, au contraire, fournissent, mais vraiment, hein, des compétences à long terme. Hein, d'ailleurs, il est vrai quand même que certaines entreprises commencent à intégrer ça. Mais je lisais dernièrement un article dans le magazine Sciences Humaines. Il s'agissait d'un jeune chercheur qui a fait une étude comparée entre plusieurs systèmes universitaires en Europe, qui a comparé notamment l'université française avec l'université anglaise et l'université suédoise. Et très étrangement, ce qu'il démontrait, c'est que ça y est, l'université française, elle professionnalise, elle a multiplié les licences professionnelles, les masters, etc. On est obsédé par ça, là où le choix anglais est tout autre. Au contraire, on est sur un socle de savoir, sur des valeurs, une identité extrêmement forte, et on laisse à l'entreprise le soin de former elle-même après les opérateurs dont elle a besoin. Les acteurs dont elle a besoin. Je crois que là, on est vraiment en train de renoncer. Enfin, l'université est en train de renoncer sur ses missions premières, sur ce qu'elle était, sur son identité propre. Et c'est très dommageable.
Il me semble, Agnès, qu'on pourrait dire que l'université, dans son origine et dans son fonctionnement jusqu'en environ à la moitié du XXe siècle, a été justement marquée par la culture, les humanités, la réflexion à long terme. Et que maintenant, on a l'impression qu'il est difficile de concevoir son chemin, à qui elle a vu courte. Et on a l'impression que l'université nous enseigne la vue courte, ce qui permettrait de nous dire que l'université n'est plus en mesure de nous aider à construire notre chemin.
Non, non, ça c'est évident. Oui, il y a un court-termisme. Alors, on va pas accabler les universitaires. Ils ne peuvent pas grand-chose, en fait. Ils sont contraints à ce système-là, à ce mode de fonctionnement-là. On remodifie la plaquette, on recommence, on reprend. Bon. Et puis, parfois, on a le sentiment qu'ils sont tellement obsédés par le calcul des coûts, hein, les directeurs de département, etc., etc. Et je ne les accable pas. Ils n'ont pas les moyens de fonctionner autrement. Hein. Ils sont tellement obsédés par ça qu'on se demande bien où passe la pédagogie et la liberté pédagogique, quoi. C'est...
Alors, qu'est-ce qui reste de la pédagogie à l'université aujourd'hui ?
Alors, après c'est c'est à chaque enseignant, au sein du cours, de se réapproprier sa propre liberté. Hein. Ça, on peut toujours, de l'intérieur, hein, contourner, etc. Mais il n'empêche que ce qui est affiché, hein, voilà, ce qui est affiché, c'est vraiment... la professionnalisation, ce que dit très très bien Christophe Granger. Hein. Bon, après, moi, personnellement, j'éprouve une vraie liberté pédagogique dans mon enseignement, une fois que je sais. Mais, en revanche, je suis totalement précaire en termes de statut, ça c'est une chose, et donc d'une année sur l'autre, je ne sais pas ce qu'il va advenir. Mon recrutement, il est totalement dépendant, totalement tributaire de la confiance que m'accordent certains collègues, hein, qui me font travailler. Après, bon, peut-être que j'ai un positionnement marginal qui fait que je me permets une certaine liberté, voilà, bon, que les étudiants apprécient, je pense, ça c'est un fait.
Alors, rappelons qu'il y a environ 92 000 enseignants à l'université, ouais. Sur ce nombre, il y a 12 000 profs. Il y a le double, c'est-à-dire 24 000 maîtres de conférences, qui sont eux-mêmes en situation précaire, avec une probabilité souvent très rare de devenir prof. Il y a 13 000 enseignants du secondaire, ce qui est énorme, et il y a quasiment 23 000 chargés de cours, vacataires.
Donc, précaire, oui.
On voit très bien la précarité de cette situation. Et vous le rappelez, je crois, à juste titre, autant on peut être inquiet sur le devenir de l'université, et vous avez cité tout à l'heure le livre « La destruction d'université française », le dernier livre paru avec une réflexion très approfondie de Christophe Granger et paru aux éditions La Fabrique, que nous reprendrons. Là, on a l'impression qu'on peut être inquiet sur l'avenir de l'université. Est-ce que l'université est encore capable d'assumer les humanités et que sa professionnalisation pose bien des questions? Alors, qui pourrait dans l'avenir prendre cela? Mais qu'en revanche, chaque enseignant à l'université a un degré de liberté pour être toujours dans la tradition d'université, présent et par sa contribution personnelle, habité par son enseignement, et à ce moment-là, proposer toujours aux étudiants des choses qui vont l'aider malgré tout à parcourir son chemin.
Mmh, absolument, oui. Oui, ça reste quand même une école de liberté malgré tout, mais je crois qu'il faut vraiment avoir conscience des conditions économiques.
Hein, oui, tout à fait. Je crois que la dimension macro-économique des universités est très inquiétante, mais laissons quand même être universitaire aujourd'hui, c'est toujours poser de l'espoir en étant vacataire, en étant jeune maître de conf, parfois un peu moins professeur, qui arrivent tard comme professeur et qui s'endorment un peu sur leur laurier. Et tous ces gens sont en train de chercher la renaissance de l'université. Quelle université demain ? Je ne sais, mais aujourd'hui, il y a des universitaires qui font bien leur travail. Marc, Agnès en font partie. Merci. Nous nous retrouverons maintenant pour lundi avec une émission exceptionnelle, un entretien inédit avec Edgar Morin, message aux citoyens du 21e siècle. Je vous assure, cette émission a été enregistrée à Paris hier, que ce document est totalement exceptionnel.
Thank you.